Réservez vite vos places sur maisondelaradioetdelamusique.fr. Move, une radio de Radio France.
Bonne soirée. Avec France Inter.
Il est 23h et oui, vous écoutez France Inter. L'heure de retrouver le journal, toute l'information avec Clémentine Sabrier. Bonsoir Clémentine.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Les États-Unis vont-ils rentrer dans le conflit qui oppose l'Iran et Israël? Donald Trump multiplie les menaces envers l'Iran et ses dirigeants. De son côté, Emmanuel Macron tente la diplomatie, vous l'entendrez dans ce journal. Toujours pas de fumée blanche au conclave sur les retraites. Selon la CFE-CGC, le patronat traîne des pieds pour trouver un accord. Et puis la loi de simplification adoptée à l'Assemblée nationale. Et à la fin de ce journal, je vous emmène à Limoges pour emprunter des œuvres d'art à un musée.
France Inter.
Que va faire Donald Trump au Moyen-Orient? Va-t-il attaquer ou tenter la voie diplomatique dans le conflit entre l'Iran et Israël? Rien n'est sûr ce soir, mais le président américain se montre menaçant, Sébastien Paour, menaçant envers l'Iran et son guide suprême.
Il appelle l'ayatollah Khamenei le prétendu guide suprême. On sait exactement où il est, écrit Trump sur son réseau social. C'est une cible facile, mais il précise que les États-Unis ne vont pas aller le tuer, en tout cas pas pour l'instant. Le ton du président américain a donc nettement changé et la menace se fait plus claire aussi à l'adresse de l'Iran. Capitulation sans condition, les mots sont en majuscules avec un point d'exclamation. Trump rappelle aussi qu'il ne veut pas que des missiles touchent des civils ou des soldats américains. Il dit « notre patience a des limites » et que les États-Unis contrôlent totalement désormais l'espace aérien iranien. Tout cela donne l'impression que l'option diplomatique a du plomb dans l'aile. « Je ne suis pas d'humeur à négocier », aurait dit Trump à son entourage. Un conseil de sécurité nationale a lieu en ce moment à la Maison-Blanche. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
De son côté, Emmanuel Macron joue la carte de la diplomatie. En marge du sommet du G7 au Canada, le président de la République appelle à la désescalade.
Nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire ou qui ait ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher, par la voie militaire, à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos. Et donc la responsabilité qui est la nôtre, c'est de reprendre au plus vite des discussions pour permettre justement de redonner un cadre à la question nucléaire et à la question balistique. C'est constamment ce que la France fait depuis 10 ans. Et depuis 8 ans, c'est constamment ce à quoi je me suis attaché. Je ne change pas d'avis et je ne change absolument rien de ce que je vous ai dit hier. S'il y a des dirigeants qui changent d'avis, c'est à eux de répondre de ces changements d'avis, pas à moi de les commenter.
Emmanuel Macron qui estime tout de même que les États-Unis peuvent encore jouer un rôle fédérateur pour faire revenir tout le monde autour de la table des négociations. Demain à 16h, un conseil de sécurité et de défense se tiendra à l'Élysée. Alors que ce soir, plusieurs explosions ont été entendues à Téhéran. L'armée iranienne a tiré des missiles sur le nord d'Israël où des alertes ont retenti pour appeler la population aux abris. En Ukraine, le bilan de la frappe russe de la nuit dernière s'alourdit. Au moins 14 personnes sont mortes. L'une des pires attaques russe contre la capitale ukrainienne, selon le président Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron dénonce le cynisme de Vladimir Poutine alors que la France s'apprête à prendre la tête du G7 l'an prochain. Le sommet aura lieu du 14 au 16 juin 2026 à Évian. Et alors que Donald Trump a quitté précipitamment le sommet du G7 au Canada hier, on apprend ce soir que les États-Unis se sont opposés à une déclaration forte sur l'Ukraine qui condamnerait la Russie. En France, le conclave sur les retraites va s'éterniser dans la nuit. Il devait prendre fin ce soir, mais il n'y a toujours pas d'accord. Les négociations entre les syndicats, toujours présents, et le patronat sont au point mort. Point mort, Christelle Thieffine, négociatrice pour le syndicat CFE-CGC, fustige les organisations patronales qui, selon elle, ne font aucun effort.
À cette heure-là, on est bloqué de chez bloqué. Moi, là, je considère que c'est eux qui plantent toute la négo. Ils ne veulent rien faire. On a fait plein d'ouvertures. On est capable de dire on est capable de faire des concessions malgré le fait qu'il nous ait fermé le retour sur l'âge. On a dit on reste quand même, on discute des autres sujets pour améliorer la réforme et aujourd'hui c'est rien. La question c'est le premier qui va lâcher là, voilà, qui va dire je m'en vais. Et je pense que là la partie patronale essaye de nous user. Ils font des lignes comptables, ils nous disent, bah, vous voyez, on fait des propositions parce que ça coûte tant, et on n'arrive pas à sortir de ça, et plutôt de se dire, on essaye de concrètement d'améliorer les choses pour les salariés. Et puis la ligne comptable, on la regarde après. Et ça, on n'arrive pas, à l'heure qu'il est, à sortir de ça.
Christelle Tchéfine, déléguée nationale de la CFE-CGC. Sans accord, il n'y aura pas de révision de la réforme des retraites. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre François Bayrou cet après-midi à l'Assemblée nationale, juste avant l'adoption de la loi de simplification par les députés. Une version très différente du texte proposé initialement par le camp présidentiel, avec notamment la fin des ZFE, zones à faible émission, ce qui n'a pas empêché les députés de l'approuver, Lise Roosevelt.
Oui, adoption avec 275 voix pour et 252 voix contre.
L'Assemblée nationale a adopté.
Toute la droite de l'hémicycle se lève et applaudit. Un texte détricoté avec la fin des zones à faible émission, le retour de la bétonisation. Le député Rassemblement national Pierre Meurin se félicite.
Depuis toujours, nous dénonçons l'écologie punitive qui se fait en fait au détriment des Français les plus modestes. Donc c'est une vraie victoire pour le Rassemblement national et aujourd'hui, c'est quelque part un grand jour pour la République.
Le socle commun s'est fissuré. Le Modem et les Républicains ont voté le texte. Pour le chef de file des députés socialistes Boris Vallaud, les masques tombent.
Partie du bloc central ne l'a pas voté et l'autre l'a voté avec l'extrême droite. Dans un grand moment trumpiste où c'est le concours Lépine d'une simplification qui en réalité révèle le scepticisme climatique d'une partie de l'hémicycle.
Et un quart des macronistes présents n'ont pas respecté la consigne de Gabriel Attal. Ils se sont abstenus ou ont voté le texte. Pour l'écologiste Lisa Bellucco, c'est tout simplement une défaite de la Macronie.
Aujourd'hui, on acte la fin de l'écologie dans les mandats d'Emmanuel Macron.
Non, pas du tout, tente de convaincre l'élu Renaissance Pierre Cazeneuve.
Je ne crois pas que ce soit une défaite de la Macronie, je crois que c'est surtout une défaite pour les gens. C'est une défaite, encore une fois, pour la santé publique, c'est une défaite pour l'écologie, mais ce n'est pas une défaite pour la Macronie. On continuera à porter ces combats.
Le texte sera désormais examiné en commission mixte paritaire en septembre. On a 3 mois pour négocier, soupira un conseiller macroniste.
Lise Roosevelt du service politique de France Inter. Citroën rappelle plus de 440 000 véhicules en Europe. C'est l'un des nouveaux rebondissements du scandale Takata. Toutes les C3 et DS3 qui ont encore ces airbags japonais défectueux doivent être ramenées au garage pour en changer. 82 000 voitures sont concernées en France. Cet après-midi, déjà, le ministre des Transports demandait l'immobilisation de ces véhicules après les révélations de la cellule investigation de Radio France sur la 19e victime de ces airbags en France, une mère de famille morte la semaine dernière à Reims. C'était l'une des figures majeures de l'Olympique lyonnais et du football français. Bernard Lacombe est mort, il avait 72 ans. Si son cœur était lyonnais, c'est avec les Girondins de Bordeaux que l'attaquant a été 3 fois champion de France dans les années 80. Le club bordelais salue ce soir sur X, un buteur de légende qui a marqué l'histoire du club par son talent et sa générosité. Également champion d'Europe avec les Bleus en 1984, au terme de sa carrière de footballeur, il a enchaîné plusieurs postes au sein de la direction de l'OL. En basket, Paris prend une option sur le titre de Betclic Elite. Les Parisiens ont remporté ce soir le 2e match de la finale contre Monaco. Très large victoire, 92-67. Si le Paris Basket remporte le 3e match de la finale, vendredi, il deviendra champion de France. En général, on va au musée pour regarder des œuvres, pourquoi pas pour les photographier. Eh bien, à Limoges, on peut aussi repartir du musée avec un dessin ou un tableau. C'est le principe de l'Artothèque du FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain. Comme une bibliothèque, on peut y emprunter des œuvres. Visite avec Julien Baldacchino.
On va tirer déjà les grands panneaux. Le problème, c'est que c'est la vraie caverne d'Ali Baba ici.
Sur les grilles de stockage qui servent de présentoir, Karim Tahir fait sa sélection parmi les dessins et photos à emprunter. Ce chef d'entreprise, abonné à l'Artothèque à titre individuel, invite désormais ses employés à s'y rendre.
Donc il y a 2 collaborateurs chaque trimestre qui viennent choisir 4 œuvres, qui les ramènent au bureau. Ils nous expliquent pourquoi ils ont choisi ces œuvres. Alors on n'y connaît rien en art contemporain. Je travaille dans le bâtiment, vous voyez. Mais l'art contemporain, ça nous raconte le monde.
Ici, emprunter une œuvre d'art, c'est presque aussi simple qu'emprunter un livre. À quelques conditions près, Stéphanie Retire-Secret, directrice adjointe du FRAC Artothèque.
On demande à ce que les œuvres ne restent pas plus de 4 mois chez les abonnés. Et par contre, effectivement, on a des recommandations particulières pour les accrochages, notamment d'éviter les pièces chaudes et humides, prendre soin d'une œuvre pour éviter un malencontreux accident.
Autre prérequis, prendre rendez-vous. Les membres sont accueillis personnellement par Philippe Charlie, le coordinateur des lieux.
L'idée, c'est d'une, de donner quand on en a des informations sur les œuvres et sur les artistes, mais c'est aussi de désacraliser l'œuvre et aussi l'emprunt, et également aussi de dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix.
Et pour ceux et celles qui se laissent prendre au jeu, le FRAC propose aussi des programmes d'éveil à la collection d'œuvres d'art.
Julien Baldacchino, reportage à retrouver sur l'application Radio France. La mission sera bientôt accomplie. Tom Cruise va recevoir un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à 62 ans avec une quarantaine de films dont de nombreux blockbusters à son actif. Cette récompense lui échappait encore. Il recevra donc sa statuette lors d'une cérémonie en novembre prochain. Et puis eux vont faire leur retour près de 60 ans après leur première apparition à la télé. Une nouvelle production des Shadocks va voir le jour dans les prochains mois. Les Shadocks, vous vous en souvenez peut-être, hein, ce sont ces extraterrestres qui prennent la forme de gros oiseaux à l'humour absurde créé par Jacques Rouxel. Pour ce nouveau projet, chaque épisode sera confié à un auteur différent et les styles d'animation seront variés.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
La météo, Elodie Calac, on aura un temps ensoleillé demain.
Temps estival demain, beaucoup de soleil sur l'ensemble du pays, juste des nuages bas et des brouillards sur les régions voisines de la Manche ou dans l'intérieur des Landes, mais ça ne durera pas. L'après-midi, quelques nuages se développeront sur le sud des Alpes et la montagne Corse. Les plus joufflus pourront donner une petite averse. Les températures seront encore en hausse et ce n'est pas fini. Le matin, ce sera encore raisonnable avec 10 à 17 degrés, déjà 19 à 22 en Méditerranée. L'après-midi, il fera 22 à 27 degrés près de la Manche, 28 à 31 sur le reste de la moitié nord, 30 à 33 degrés au sud et jusqu'à 33 à 35 entre le Roussillon et la basse vallée du Rhône. Ensuite, la chaleur s'accentuera de jour en jour. Une vague de chaleur se mettra en place pour la fin de la semaine avec des températures très élevées.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter présente
le podcast Espion, une histoire vraie.
Stéphanie Duncan.
Une série de portraits d'agents secrets pour plonger dans les eaux troubles de l'histoire. De Paris à New York, en passant par Moscou, Buenos Aires ou Téhéran, suivez les aventures fascinantes de ces hommes et de ces femmes au destin hors du commun.
Espion. Une histoire vraie.
Retrouvez tous les épisodes sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
France Inter, il est 23h12. Affaire sensible avec Fabrice Rouel.
Aujourd'hui, dans Affaire sensible, explore le temps, la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. Quand on pense Révolution française, on songe immédiatement au 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, certes. Mais un autre événement s'inscrit dans la mémoire populaire, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, votée le 26 août 1789 par la toute jeune Assemblée nationale. Texte tellement important, lui aussi, qu'il est mentionné dans le préambule de notre Constitution. Et entre ces deux jours, il y a une nuit, peut-être la plus importante de notre histoire. La nuit du 4 août, celle de l'abolition des privilèges. Une nuit où les Français découvrent la politique qui emporte tout avec elle. Un régime, des ordres, des principes. Une nuit qui change la face du pays, à jamais. Alors, passons la nuit ensemble, si je puis me permettre. Celle du 4 août 1789. Notre invité aujourd'hui, Bertrand Guillot, écrivain, auteur entre autres du livre « L'abolition des privilèges » paru aux éditions Les Avrils en 2022, lauréat du prix Montesquieu. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Juliette Proutot, rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes, réalisation, David Leprince.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles, sur France Inter.
La séance va bientôt commencer. Nous sommes le mardi 4 août 1789 à Versailles. Il est presque 20h et tout le monde n'est pas arrivé, loin de là. C'est qu'ils sont nombreux à devoir se réunir dans cette salle depuis le début du mois de mai dernier. 1139 exactement, 1139 députés des états généraux représentant le clergé, la noblesse et le tiers état, les trois ordres qui structurent la société de l'époque. Leur responsabilité est énorme. Ils doivent imaginer, écrire et voter une constitution pour le pays. Cette mission, qui semblait presque impossible, se révèle encore plus complexe que prévu. Pour le dire autrement, les choses n'avancent pas, ou pas vite.
En tout cas, en ce début de soirée, les bancs de l'hôtel des Menus Plaisirs, la salle versaillaise qui accueille ses états généraux, sont assez clairsemés. Bon, en même temps, le programme de la soirée n'est pas très alléchant. C'est le député Target qui doit parler. Et Target, comment dire, ce n'est clairement pas le meilleur orateur. Depuis des jours, ce tribun soporifique, député du tiers état, insiste sur sa proposition de texte qui en vérité ennuie tout le monde. Il tient à ce que les redevances continuent d'être payées comme elles l'étaient avant le début des états généraux, en attendant que de nouvelles règles soient appliquées. Un rappel à l'ordre qui n'intéresse pas grand monde. Alors on ne se bouscule pas au portillon pour venir écouter l'assommant académicien. Mais s'ils savaient comme ils ont tort, ceux qui n'ont pas fait le déplacement. Parce que c'est ce soir que tout va se passer. Mais ça, ils ne sont qu'une poignée à le savoir. Quant aux alentours de 21h, le vicomte de Noailles, l'un des plus grands noms de la noblesse du pays, monte à la tribune.
Le but du projet d'arrêté que l'Assemblée vient d'entendre est d'arrêter l'effervescence des provinces, d'assurer la liberté publique et de confirmer les propriétaires dans leurs véritables droits. Mais comment peut-on espérer d'y parvenir sans connaître quelle est la cause de l'insurrection qui se manifeste dans le royaume? Et comment y remédier sans appliquer le remède au mal qui l'agite? Pour parvenir à cette tranquillité si nécessaire, je propose qu'il soit dit que l'impôt sera payé par tous les individus du royaume dans la proportion de leurs revenus, que toutes les charges publiques seront à l'avenir supportées également par tous, que tous les droits féodaux seront rachetables par les communautés en argent ou échangés, que les corvées seigneuriales, les mains mortes et autres servitudes personnelles seront détruites sans rachat.
Pardon ? A-t-on bien entendu ? L'un des plus grands nobles de France vient de demander l'abolition des principaux privilèges ? Ça alors ? À peine la déflagration a-t-elle le temps de se faire sentir que... Attendez, est-ce que ce n'est pas... Mais si, c'est le duc d'Aiguillon qui s'avance là. Le plus grand propriétaire terrien après le roi, peut-être l'un des nobles les plus riches du pays. Il est en retard au début de la séance. Personne ne l'a vu arriver. Mais il monte à la hâte les quelques marches qui mènent à l'estrade et il se lance. Il commence son discours en rappelant le joug qui depuis tant de siècles pèse sur la tête du peuple. Comment le malheureux cultivateur est toujours soumis au reste barbare des lois féodales qui subsistent encore en France. Et ce lettré évoque le siècle de lumière, de l'empire, de la sainte philosophie. Cette époque fortunée où, réunis pour le bonheur public et dégagés de tout intérêt personnel, ils vont travailler à la régénération de l'État. Et le duc de conclure, le plus naturellement du monde, qu'il souhaite que les impôts soient dorénavant supportés par tous les citoyens en fonction de leurs facultés et que les droits féodaux soient abolis. C'est comme si Bernard Arnault, Vincent Bolloré prenaient la parole à l'Assemblée pour supprimer l'évasion fiscale, payer plus d'impôts et augmenter le salaire minimum. Et plus encore, comme l'explique l'historien André Castelot.
Ça a commencé de la manière suivante. À la séance de l'Assemblée, le vicomte de Noailles propose l'égalité devant l'impôt, l'abolition des droits féodaux, la suppression des corvées et des servitudes. Les surenchères commencent aussitôt et chacun sacrifie allègrement le bien de son voisin. Ainsi, par exemple, l'évêque Lubersac propose la suppression du droit exclusif de la chasse. Alors le duc de Châtillon, qui est un chasseur fameux, dit l'évêque nous ôte la chasse, et bien je veux que nous allons lui ôter ses dîmes. Alors on abolit les colombiers, les garennes, les banalités, c'est-à-dire que les paysans devaient obligatoirement utiliser de l'outillage appartenant aux seigneurs. On supprime également les juridictions seigneuriales, et le peu qui reste encore du servage.
Il est un peu plus de 2h du matin quand les députés se séparent, encore estomaqués par ce qui vient de se passer. Tout le monde est sonné. Tout le monde sauf ceux qui savaient. Quoi ? Vous pensiez que cet événement historique était spontané ? Bien sûr que non. Les meilleures improvisations sont celles qu'on a le plus préparées. Moins romantiques certes, mais tellement plus efficaces. Tenez, l'élection d'Isaac Le Chapelier en tant que président de la séance le matin même. Une coïncidence ? Bien sûr que non. D'ailleurs, si on avait laissé la politique faire les choses, ce n'est pas lui qui aurait été élu. Mais pour que le plan fonctionne, il fallait que ce soit Chapelier. Alors, pour assurer son élection, ses amis du fameux club breton futur Jacobin n'ont reculé devant rien. après leurs menaces sérieuses, le concurrent s'est rapidement désisté. Il suffisait ensuite de faire du soporifique avec Targé, et le tour était joué, le discours de Noailles n'en prenait que plus de poids. Mais avant de dévoiler la suite des manœuvres politiques qui ont permis à une centaine de députés de faire du 4 août la nuit de l'abolition des privilèges, il faut comprendre pourquoi le pays tout entier semble prêt pour cet embrasement. Autrement dit, comprendre le pourquoi avant le comment. Et pour cela, un peu de sémantique est nécessaire. Parce que de quoi parle-t-on au juste quand on parle de privilèges ? L'historienne Dominique Magueraz précise sur France Culture.
Ah, le terme privilège remonte à l'Antiquité, à la République romaine, où les juristes ou les textes parlent de ces privilèges. Le terme de privilège désigne un droit particulier à une personne ou un groupe de personnes ou à une entité, une ville par exemple, les privilèges des cités grecques dans l'Empire romain. Ce qui importe, c'est le caractère dérogatoire, que ça soit dans le droit ou hors du droit. En tout cas, il y a une dimension dérogatoire qui s'attache au mot privilège et particularisme, particularité. Voilà, par rapport à la généralité de la loi ou du droit.
Les privilèges constituent donc la pierre angulaire de cette société de fin du XVIIIe siècle. Ce sont eux notamment qui structurent et qui séparent l'Ancien Régime en trois ordres, en trois groupes sociaux distincts. Avant de se constituer en Assemblée nationale, les États généraux incarnent cette division. Les députés y sont séparés par ordre. Il y a d'abord les orateurs, ceux qui prient, c'est-à-dire le clergé. Un ordre très hétérogène où se croisent les petits curés de paroisses pauvres et les riches évêques des grandes villes. Il y a ensuite les bellators, ceux qui se battent. C'est la noblesse qui, à défaut de payer un impôt financier, paie ce qu'on appelle l'impôt du sang. Et enfin, le troisième ordre, celui qu'on appelle le tiers-état, laborator, ceux qui travaillent, essentiellement les artisans, les commerçants. Le tiers-état, c'est 98% de la population. En son sein, il y a aussi les bourgeois qui sont représentés aux états généraux et ceux que certains nomment le quatrième ordre, les serfs, les paysans, ce sont les plus pauvres. S'il y a évidemment une hiérarchie entre ces ordres, l'Ancien Régime fonctionne parce qu'ils sont complémentaires. Le sociologue Alain Bire le résume ainsi. Cette société s'organise autour de l'idée d'une certaine interdépendance des différents ordres entre eux, étant donné que chaque groupe a une place bien définie dans l'ordre social et qu'il rend également service aux deux autres. Il va sans dire que, concrètement, certains rendent plus de service que d'autres, et que si la Révolution a décidé que les humains naissent libres et égaux en droit, certains sont plus égaux que d'autres. Il se trouve que cette société d'ordre, au début des années 1780, souffre. La situation économique du pays est catastrophique. La dette est gigantesque et la population exsangue. Les dépenses et les crises s'enchaînent. La guerre de 7 ans contre l'Angleterre, le soutien à la guerre d'indépendance des tout jeunes États-Unis, puis les aléas météo, les apocalypses de grêle de 1788 qui détruisent les récoltes, la guerre des farines, la pénurie de blé, la spéculation, les pillages, le prix du pain qui explose. L'historienne Sophie Vanisch complète le tableau dans l'émission de Jean Lebrun, La Marche de l'Histoire.
Il faut dire que le gouvernement ne peut plus payer les dettes nées de la guerre d'Amérique et puis que les nobles refusent de devenir des contribuables massifs qui pourraient aider à la réforme. Le bon roi Louis XVI.
Ils refusent fondamentalement, ils ont refusé avec âpreté depuis au moins la réforme de Turgot de 1774-1775 qui avait mené à une politisation très forte de ces mêmes paysans qui avaient protesté contre un système qui, au lieu de rendre le marché plus fluide, l'avait au contraire rendu impossible et avait créé des situations de fausse disette et avait fait finalement monter les prix d'une manière inacceptable, ce qui avait conduit à ce qu'on appelle des taxations sur les marchés, c'est-à-dire que les paysans ramenaient le juste prix en affirmant lequel il était contre un prix abusif lié à ces jeux d'accaparement sur les marchés. Et cette réforme libérale donc est impossible en 1775. On réunit toutes sortes d'assemblées de notables contre le pouvoir des parlements pour pouvoir faire passer un impôt sur tous les biens fonciers. C'est ce que souhaitait Calonne. Et on ne réussit pas à convaincre les notables qui votent absolument contre.
offre à notre bon roi.
Et puis, au-delà des problématiques économiques, un nouveau grain de sable vient perturber la machine d'Ancien Régime. Quelque chose de tout nouveau pour l'époque. Des scandales politiques. Ce qui est nouveau, ce ne sont pas les scandales en tant que tels, mais le fait qu'ils reposent sur des questions de transparence, d'image. Des sujets jusqu'alors tout à fait inédits. Évidemment, on n'imagine pas un roi devoir se justifier de quoi que ce soit auprès de qui que ce soit. Mais les temps changent. Il y a d'abord, en 1781, la publication du compte-rendu au roi, sorte de bilan des dépenses du pays, établi par le ministre des Finances de l'époque, Necker. En rendant public les comptes de l'État, le grand argentier, admiré pour ses compétences et son sérieux, entend dénoncer l'importance des dépenses liées à la guerre qu'il considère comme un gaspillage. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est que la publication de ce texte allait créer un gigantesque scandale. Quelque chose qui change fondamentalement le regard de la population sur la monarchie. Parce que dans le compte rendu au roi, figure aussi la liste des pensions versées par l'État à la noblesse, les noms des nobles en question et les montants correspondants. La publication de ces chiffres crée un électrochoc dans le pays. Les réseaux sociaux n'existent pas, mais n'allez pas croire que les informations ne circulent pas. Une partie non négligeable de la population prend alors conscience de l'ampleur abyssale des privilèges accordés à certains, renforçant un sentiment d'injustice dans une période particulièrement difficile pour une partie du tiers-État. Puis vient l'affaire du collier de la reine. En quelques mots, une certaine Jeanne de Lamothe, courtisane arriviste, promet à deux grands joailliers de l'époque qu'elle est assez proche de la reine Marie-Antoinette et qu'elle pourrait la convaincre d'acheter l'un de leurs colliers, avec 647 diamants le plus cher jamais réalisé. Ce qui est un mensonge. Le collier le veut pour elle, comme le montre le documentaire Secret d'Histoire sur France 3.
Elle va faire savoir au cardinal de Rouen que Marie-Antoinette a un immense service à lui demander, qu'elle ferait tout s'il lui rend ce service pour lui obtenir le poste ministériel qu'il brigue depuis tant d'années.
Elle va faire croire à Rouen que Marie-Antoinette veut acheter en cachette le célèbre collier par son intermédiaire. Évidemment, l'objectif est beaucoup plus simple, récupérer le collier pour pouvoir empocher l'argent qu'il représente.
Et elle va obtenir le collier. Mais la supercherie éclate et l'intrigante est condamnée à la prison à vie. Même si la reine n'a pas fait grand-chose de mal dans cette histoire, le procès de l'affaire abîme durablement quelque chose qui n'existait pas encore quelques années auparavant, l'image de la monarchie. Quant à Louis XVI, il n'y a pas qu'avec le peuple qu'il est en froid. Ça fait quelques années maintenant que le torchon brûle entre le monarque et les élites. Pourquoi ? Eh bien parce que la situation financière et fiscale du pays est telle que tout le monde doit faire des efforts. Continuer à faire payer les plus pauvres ne fonctionne plus. Les couches les plus populaires du tiers-État sont dans un tel état de dénuement et de misère qu'elles n'ont plus rien d'autre à donner. Comme l'exprime cette chanson de l'époque, extraite du film 1788, une histoire populaire de la Révolution française de Maurice Felvic.
Le pauvre laboureur, il a bien du malheur. Du jour de sa naissance, l'est déjà malheureux. Qu'il pleuve, tonne ou vente, qu'il fasse mauvais temps, toujours l'on voit sans cesse le laboureur au champ.
La situation ne peut plus continuer comme ça. Et le roi l'a compris. Je vous ai compris. Depuis le but de son règne, en 1774, Louis XVI tente en effet de mettre en place une réforme fiscale afin d'augmenter les recettes du royaume. Et il n'y a pas 36 façons de faire. Les nobles, jusque-là exemptés d'impôts, doivent devenir des contribuables. Autant dire qu'une bonne partie des élites concernées refusent obstinément qu'on touche à ce qu'ils croient être leur dû. Les nobles sont prêts à tout pour maintenir un statu quo tellement à leur avantage. Pourtant, cette situation semble de moins en moins acceptable. Et c'est le cas partout en Europe, d'ailleurs. Le professeur d'histoire de la Révolution française, Pierre Cernat, l'expliquait en 2020 dans le cours de l'histoire sur France Culture.
Nous sommes rentrés depuis les années 1780 avec la révolution américaine, avec les révolutions atlantiques. Genève, Liège, le Brabant, les Pays-Bas, l'Irlande sont en révolution depuis les années 1780. C'est pas simplement la France et toute l'Europe qui est en ébullition pour les mêmes raisons. On veut un monde plus juste. Ce n'est pas qu'on ne veuille pas payer d'impôts. On veut qu'il soit réparti de façon plus juste. Et Louis XVI le comprend et donc crée, de fait, en brûlant les étapes, une alliance avec son peuple. Au début de l'année 1789, il est clair pour chacun que le roi veut créer une alliance avec son tiers-état, c'est-à-dire les élites vives, dynamiques et jeunes de la nation.
Et pour fonder cette alliance avec le peuple français, Louis XVI décide en août 1788 de convoquer les états généraux. Loin de se douter que cette décision va changer la face du pays et signer sa perte.
Dans ma cornue, j'y ai versé six gouttes de ciguë, un peu d'espoir. Ça a d'épaisseur et j'ai touillé. Du fond de ma boutique monte un cantique, un hymne à l'amour, orifère, ébullition, réaction. L'arsenic, faites monter le mercure, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans ma cornue, j'y ai versé une pincée d'orgueil mal placée, un peu de gâchis, un souvenir de ton corps. Dans ma cornue, j'y ai coulé une poignée d'orage. Dans ma cornue, j'y suis tombé. Quelle autre solution que de se dissoudre? Faites monter l'adrénaline, faites monter l'arsenic, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Faites monter.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la nuit de l'abolition des privilèges.
Affaires Sensibles.
Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins ?
Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous.
La liberté aussi !
Fabrice Drouel.
Nous sommes le 8 août 1788 et Louis XVI, contraint, forcé par la situation économique et politique du pays, convoque les états généraux du royaume qui s'ouvriront le 5 mai de l'année suivante, en 1789 donc. Le plan du roi est de s'appuyer sur les classes supérieures du tiers-état pour parvenir à mettre en place les réformes fiscales nécessaires pour maintenir son royaume à flot. Et évidemment, les choses ne vont pas se passer comme il imagine. Pourtant, pour convaincre cet ordre de sa bonne volonté, Louis XVI double le nombre de députés accordés au tiers-état, qui se retrouvent deux fois plus nombreux que les députés de la noblesse et du clergé. Incroyablement généreux, ce roi, pensez donc. On va comprendre rapidement que ce cadeau n'en est pas un. Si les états généraux organisés par Louis XVI en 1789 seront les derniers de l'histoire du pays, il ne s'agit pas d'une première. Depuis des siècles, les souverains ont recherché un semblant de légitimité populaire. Et c'est pour cette raison que les états généraux ont été créés. Il s'agit donc d'une vieille institution qui remonte au tout début du XIVe siècle sous Philippe le Bel. Une institution qui n'a pas changé d'un pouce quand Louis XVI la convoque en 1789. Elle est toujours divisée en trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Les députés sont élus dans tout le royaume et surtout, le vote se fait par ordre. C'est-à-dire que chaque ordre possède une et une seule voix. Mais doublement du nombre de députés ou non, avec une voix par ordre, le tiers-état est forcément en minorité et peu importe qu'il représente 98% du peuple. Et ça, les députés du tiers le savent bien. Ce qu'ils veulent, c'est que chaque homme possède une voix. Oui, évidemment, un homme, il n'y a que des hommes dans l'Assemblée, les femmes sont à la cuisine. Le tiers-état, comptant plus d'élus que le clergé et la noblesse réunis, le vote par tête lui donnerait la majorité des voix. Et là, il pourrait enfin faire bouger les choses. Le roi refuse, évidemment. Sauf que les choses bougent quand même chez les députés. Et le 20 juin 1789...
L'Assemblée nationale. Considérant qu'appelée à fixer la constitution du royaume, opérer la régénération de l'ordre public et maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut empêcher qu'elle continue ses délibérations dans quelque lieu qu'elle soit forcée de s'établir et qu'enfin, partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale. Arrête que tous les membres de cette Assemblée prêteront à l'instant serment solennel de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides et que le discernement étant prêté, tous les membres et chacun d'eux en particulier confirmeront, par leur signature, cette résolution inébranlable.
Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes, conclut Mirabeau trois jours plus tard. Oui, le serment du jeu de paume change la donne. Il montre la volonté des députés. Les rapports de force ont changé. Les députés du tiers sont déterminés. Il n'y aura pas d'états généraux sans un changement du mode de scrutin. D'autant qu'ils sont soutenus par les curés, la couche sociale la plus populaire du clergé. Bref, le roi ne peut plus refuser. Alors vote par tête, ce sera. Et c'est une bascule, évidemment. Le 9 juillet suivant, les États généraux se proclament Assemblée nationale constituante. L'objectif a changé. Les députés doivent désormais offrir au royaume sa première constitution. Et pour ce faire, ils s'appuient sur des documents extraordinaires, les cahiers de doléances. Pierre Cerna, dans la marge de l'histoire, sur France Culture, explique.
Alors, c'est une architecture absolument remarquable parce que dans chaque commune de France, à peu près 35 000 communes, les premiers et troisièmes dimanches du mois de mars, on va se réunir, on va rédiger un premier niveau de cahier. Puis après, ils vont être envoyés au sous-bailliage ou au sous-sénéchaussée. Plus de 1200, ils vont être resynthétisés. Et puis, ils vont être envoyés aux 400 bailliages officiels, 400 cahiers, chaque ordre, va rédiger et resynthétiser 12 cahiers. Et donc seront déposés au pied de Sa Majesté Louis XVI 36 cahiers, 12 pour chaque ordre, le 5 mai 1789, quand s'ouvrent les cahiers. Tout cela s'est fait en quelques mois, du mois de mars au mois de mai. On a réussi cette prouesse de passer de la parole de près de 13 millions de personnes à 36 cahiers. C'est un acte de démocratisation et de politisation, je crois, assez unique dans l'histoire de notre pays.
Avec les cahiers de doléances, c'est tout un pays qui découvre et qui commence à apprendre la politique. Parce que le règlement électoral est très ouvert, tous les Français à partir de 25 ans peuvent s'exprimer. Donc, la participation est gigantesque. Ce qui fait dire l'historien Pierre Cerna que ces documents constituent une photographie unique d'une société à un moment donné. Désormais, le peuple n'est plus constitué que de sujets du roi, mais bien de corps politiques, pour reprendre l'expression de l'historienne Sophie Vanisch. Alors que dit ce nouveau corps politique au travers de ses cahiers? Est-ce que la noblesse demande plus de pouvoir? Le clergé plus d'église? Et le tiers-état la fin des privilèges? Eh bien non. En réalité, le peuple n'est pas contre les privilèges, contre les impôts, non. Ce que veulent les plus précaires, c'est ne pas être les seuls à contribuer, que tout le monde participe. Ce qui ressort, c'est l'idée d'une certaine justice, la création d'un lien social et surtout cette idée majeure d'état de droit, comme le confirme l'historienne Sophie Vanisch dans La Marche de l'Histoire sur France Inter.
Ce qui me paraît important, c'est effectivement l'idée émerge de droit. Quand même.
C'est-à-dire alors, il y a deux mots
on
quand
se rend
même.
Pas compte parce qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement galvaudé. C'est-à-dire, l'état de droit, c'est le plus petit dénominateur commun de ceux qui se prétendent démocrates. Et on sait que c'est pas nécessairement suffisant. Mais à ce moment-là, on passe de l'arbitraire à la possibilité de cet état de droit.
Fait étonnant, en tout cas par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, les doléances les plus libérales émanent de la noblesse. Enfin, d'une certaine partie de la noblesse, aristocratique. Celle qui s'en prend à ceux qu'il considère comme la fausse noblesse, celle qui achète ses charges à l'État et qui brade à tout va pour enflouer les caisses. Les critiques sont virulentes. Notons aussi que, parmi les demandes du clergé, on trouve déjà la possibilité pour les prêtres de se marier. Mais oui. En tout cas, il est important de noter qu'à ce moment-là, ce n'est pas la monarchie en tant que telle qui est prise pour cible. Personne ne veut renverser un roi qui pourtant ne semble pas prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il commence à en avoir assez de ces députés qui veulent toujours plus? Lui qui déjà leur a accordé beaucoup? N'a-t-il pas fait preuve d'une grande mansuétude en organisant ses états généraux? En doublant les députés du tiers-état? En acceptant l'idée d'une assemblée nationale, d'une constitution? Voilà qu'on lui demande de partager le pouvoir, un pouvoir qu'il tient de Dieu. Capet, réveille-toi, ils sont devenus fous. Et quand Louis XVI décide de virer une deuxième fois Necker, son très proche du peuple, trop populaire, ministre des Finances peut-être, la réaction des Parisiens ne se fait pas attendre. C'est la prise de la Bastille, reconstituée pour la plateforme pédagogique de France Télévisions, Lumni.
Le peuple n'arrive pas à croire que Necker ait été démis de ses fonctions. Il était le seul à vouloir mettre fin aux souffrances du peuple. À Paris, l'avocat Camille Desmoulins a brandi un pistolet et a dit que le roi préparait une nouvelle Saint-Barthélemy. Il a appelé aux armes.
Pourquoi la Bastille?
C'est là qu'il y a de la poudre pour nos armes.
Attendez-moi, Pauline, où vas-tu? Il faut se battre, maman. Bientôt, les soldats de toute l'Europe seront là. Il faut barricader les rues et prendre les armes.
Nous sommes le 14 juillet 1789 et la Bastille vient de tomber. Alors que la tête du gouverneur de la célèbre prison se balade en haut d'une pique à Paris, un mouvement de panique commence à grandir dans les campagnes. Le pays tout entier semble progressivement traversé de rumeurs plus effrayantes les unes que les autres. On parle tantôt d'un complot de la noblesse contre l'Assemblée, contre le tiers-État pour faire échec à la Constitution, tantôt de brigands qui viennent piller les villages, voler le grain, brûler les églises. La peur devient collective, quand bien même elle ne repose sur aucun fait, aucune preuve. En réaction à ces violences fantasmatiques, les milices villageoises se forment, des paysans prennent les armes pour se protéger, mais aussi pour se révolter. Non, ils ne laisseront ni les élites, ni les brigands leur prendre ce qui leur revient, les droits, la justice. Nous sommes en plein mois de juillet 1789.
Des villes, des provinces ont été remplies de terreur panique. Les citadins, les laboureurs ont quitté leurs travaux pour courir aux armes. La municipalité de Soissons informa l'Assemblée nationale le 27 juillet que des troupes de brigands fauchaient les blés avant leur maturité et que les habitants des villages refluaient dans les villes. Mais cette accusation atroce n'avait point de fondement réel. Des paysans qui avaient pris querelle et se battaient répandirent l'effroi parmi les ouvriers de la campagne. De proche en proche, ils s'étaient propagés dans le pays et les fugitifs croyaient voir des milliers de brigands à leur poursuite. La capitale, sur les mêmes bruits, a fait marcher à Saint-Denis du canon et des troupes.
On attaque des greniers à sel, mais aussi des châteaux qui sont pillés, dans lesquels on brûle les terriers. Ces vieux documents où sont consignées les servitudes et autres dettes des paysans vis-à-vis de leur seigneur. Ces textes sont nécessaires, essentiels au prélèvement des taxes. Sans eux, eh bien personne ne doit plus rien à personne. Quand à Paris, les députés de la noblesse apprennent ces événements, ils sont aussi stupéfaits que terrifiés. Ce type de révolte, disséminée partout dans le royaume, c'est du jamais vu. C'est ce qu'on a appelé la grande peur. Ils ont en mémoire la tête du gouverneur de la Bastille sur une pique. Ils sentent que cette fois, les choses peuvent devenir aussi sérieuses que sanglantes. Oui, ils ont peur. Et la peur est contagieuse. Il faut calmer le peuple. C'est pour cette raison que les députés sont tout d'un coup beaucoup plus à même d'adoucir leur position à l'Assemblée nationale. De toute façon, et en réalité, si les terriers ont brûlé, alors que les droits et autres taxes qu'ils détenaient sur les paysans, les SR, la frange la plus pauvre du tiers-état, eh bien tout cela n'existe plus. Voilà pourquoi les nobles décident d'abandonner une partie de leurs privilèges. Ils les ont déjà perdus. C'est pour cette raison également que les députés bretons, qui formeront bientôt le fameux club des Jacobins, décident, en ce début du mois d'août 1789, d'utiliser la peur des élites pour leur forcer la main. Et comme on le sait, ça fonctionne. Voici le compte-rendu de la nuit du 4 août, tel qu'il a été repris dans la presse de l'époque.
En une nuit, la face de la France a changé. L'ancien ordre de choses que la force a maintenu malgré l'opposition de 100 générations a été renversé. En une nuit, l'arbre fameux de la féodalité dont l'ombre couvrait toute la France a été renversé. En une nuit, l'homme cultivateur est devenu l'égal de celui qui, en vertu de ses parchemins antiques, recueillait le fruit de ses travaux, buvait en quelque sorte sa sueur et dévorait le fruit de ses veilles. L'homme noble a repris la place que lui marquaient la nature et la raison. En une nuit, le triple pouvoir féodal, aristocratique et parlementaire a été anéanti. Ces corporations, fameuses par leur tyrannie et leur cruauté, ne présentent plus aujourd'hui qu'un corps languissant, abattu, terrassé par un bras courageux et se débattant inutilement contre les efforts du patriotisme. En une nuit, la France a été sauvée, régénérée. En une nuit, un peuple nouveau semble avoir repeuplé ce vaste empire.
En une nuit, la face de la France a changé. Mais est-ce vraiment le cas? Car avant de fermer les portes de l'hôtel des menus plaisirs, l'Assemblée nationale ne crie pas « Vive la Révolution !» mais « Vive le roi !» Ce n'est qu'une question de temps.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
L'abolition des privilèges, la nuit du 4 août, on en parle avec notre invité Bertrand Guillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, auteur entre autres du livre intitulé « L'abolition des privilèges », livre paru aux éditions Les Avrils en 2022, lauréat du prix Montesquieu, c'est très chic, bravo. Ce livre est qualifié de roman. La réalité n'aurait-elle pas assez de talent ?
Ah ben, elle en avait énormément. J'avais toujours entendu la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. J'avais des souvenirs d'école, mais je savais pas du tout ce qui s'était passé. Je suis allé regarder les archives il y a quelques années, et puis, comme la dernière archive que vous avez passée, là, le montre, les textes sont dingues de cette époque. Et tous ceux qui étaient là le 4 août, le 5 août, au matin, ils écrivent, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des livres d'histoire qui sont écrits dessus, donc je me suis appuyé dessus. Mais ce qui m'intéressait, c'était les résonances que ça pouvait avoir avec aujourd'hui, et d'essayer de comprendre ce qu'il pouvait y avoir dans la tête des acteurs de cette nuit-là.
Ouais.
Donc je suis allé regarder des récits des acteurs eux-mêmes. Bah, en fait, quand on lit un livre d'histoire, on connaît la fin, déjà. Moi, je voulais me mettre à la hauteur des acteurs de la nuit qui ne savent pas ce qui va se passer le lendemain. Ceux qui ont prévu un peu la chose et qui ne savent pas si leur plan va marcher. Ceux qui se laissent abuser, ceux qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Voilà, c'est ça qui m'intéressait.
D'accord. Alors effectivement, il y a une belle emphase dans les textes qu'on a entendus, mais surtout, c'est tellement politique.
Ah oui.
Ça qui est fort.
Alors, tous les trois mois qui se passent, enfin les deux mois qui se passent avant tous les états généraux, on invente la politique. On invente la façon de voter. On invente la façon de nouer des alliances. On change les règles du jeu. Il y a la création de l'Assemblée nationale. Enfin, c'est le 17 juin. Voilà. Tout ça, ça se fait en deux, trois mois.
Et on se nourrit aussi de gloire personnelle. Ah bah, il y a des grandes figures qui sont aussi des gens qui veulent avancer en politique.
Alors, il y en a plein.
Il
y a ceux qui veulent jouer leur carte. Alors, on connaît surtout... Je vais peut-être poser d'ailleurs une petite nuance. On connaît Mirabeau, on connaît Sieyès, mais la plupart, surtout de ceux qui ont vraiment fomenté le 4 août, ils sont absolument inconnus.
Mais c'est vrai, ceux qu'on a cités, le Duc, ils ne sont pas connus.
Non. Et c'est parce que les hommes qui sont venus aux états généraux, enfin, notamment ceux du tiers-état, en fait, déjà, il n'y a personne vraiment de connu du tiers-état. Et puis, même les nobles, pour eux, ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel.
Donc, on est dans un projet collectif, politique et collectif.
Alors, on est dans un projet politique au départ. On va en parler peut-être juste après, mais c'est les nobles qui imposent un peu les états généraux à Louis XVI. Les députés du tiers-état, eux, viennent sans savoir pourquoi, c'est-à-dire qu'ils viennent de toutes les provinces. Ils ont mis parfois 2, 4, 5 jours de voyage à venir et ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver.
Et pourquoi les nobles demandent ces états généraux, précisément ?
Alors, en gros, ça fait 15 ans que Louis XVI essaye de faire payer l'impôt aux nobles. Ça, vous l'avez parfaitement dit. Ça fait 15 ans qu'il résiste. En disant ça va jamais marcher, ça a toujours été comme ça, on va le faire, oui, mais pas comme ça. Voilà, il y a tout le déni possible est mobilisé. À un moment, quand ils sentent que ça peut plus continuer comme ça, Louis XVI tente une réforme. On passe les détails, mais les nobles se disent OK, on va pouvoir. Ben, si vous voulez nous faire payer les impôts, vous devez réunir les états généraux. Et ils ont en tête d'utiliser ces états généraux pour monnayer, en gros, leur contribution au budget de l'État contre d'autres avantages. Et leur obsession à eux, c'est de diminuer le pouvoir royal.
Mais le roi aurait pu ne pas ouvrir ces états généraux. Finalement, au bout du compte, pourquoi il le fait ? Est-ce que c'est un signe d'ouverture ? C'est intéressé, certes.
Oui, parce qu'en vrai, non, mais c'est la banqueroute hein, qui... Ça fait des années que... Chaque année, on se demande si le pays va faire banqueroute. Donc là, c'est vraiment, il est acculé et il n'a plus d'autre choix. S'il veut faire payer les nobles, donc s'il veut éviter la banqueroute, il faut réunir les états généraux.
Vous savez, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Quelques siècles plus tard, je pense à Gorbatchev, qui a soulevé le couvercle de la marmite et qui s'est ébouillanté. Et je trouve qu'il y a un parallèle avec Louis XVI.
C'est très juste. C'est très juste parce que, en fait, ça fait des décennies, parfois des siècles, que... Tout le régime, qui est ce qu'on appelle l'ancien régime aujourd'hui, mais le régime féodal, tient sur des choses qui ne correspondent plus à l'époque.
Et comme l'Union soviétique ne tenait plus, ou à un fil.
Voilà. Et globalement, presque tout le monde savait que ça tenait plus. Ouais. Mais tout le monde se disait, oh, ça va tenir encore un an, deux ans. Vous savez, il y a des petites rustines fiscales depuis 10 ans. Enfin, on connaît ça, en fait, maintenant, aujourd'hui aussi.
Bien sûr. Les résonances, les fameuses résonances.
C'est fou.
Je me dis qu'au final, on aurait pu peut-être choisir la date du 4 août, abolition des privilèges, pour la fête nationale française.
Alors, à la fin de la nuit, comme ils sont tous ivres de ce qu'ils font, et peut-être, pour certains, ivres tout court, donc dans cette ivresse, il y en a un député qui propose de faire du 4 août la fête nationale, mais il n'est pas écouté. Et... En vrai, le 4 août, c'est un peu nébuleux ce qui s'est passé. C'est un peu magique.
C'est vrai.
Mais on n'a pas de héros pour une fête nationale, c'est compliqué.
Absolument. On parle beaucoup de l'importance des députés bretons aux états généraux. Pourquoi ont-ils eu un rôle en particulier ?
Alors, il faut savoir que en France, il n'y a pas eu d'états généraux depuis 1614. Mais en Bretagne, tous les deux ans, il y a des états de Bretagne avec la noblesse, le clergé, le tiers-état. Et les derniers états de Bretagne, il y a eu un vrai affrontement, enfin il y a eu des morts à Rennes, affrontement entre le tiers-état et la noblesse, et pour résumer, le tiers-état a gagné. Et les nobles se sont vraiment drapés dans leur fierté, les nobles bretons ont dit « puisque c'est comme ça, on vient pas ». Donc les bretons, ils arrivent sans la tutelle de leur noblesse à Versailles, tout le monde sait qu'ils ont gagné quelque chose, donc ils sont auréolés d'une petite gloire. Et on se dit, en fait, personne, je vous disais tout à l'heure, les députés des états généraux, ils arrivent et puis ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Ils ne connaissent pas vraiment les règles du jeu. Les bretons, eux, non seulement, ils connaissent un peu les règles du jeu, mais en plus, ils ont gagné. Donc tout le monde va les voir. Après, vite, on va se distancer parce qu'on les appelle très vite les enragés ou les incendiaires.
Bon,
parce que c'est les radicaux de l'époque.
En tout cas, la Bretagne, terre populaire.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Dites-moi Bertrand Guillot, l'abolition des privilèges, c'est bien gentil, mais est-ce que les privilèges ont vraiment disparu ? Et lesquels ?
Alors, oui, bonne question. Alors, il y a un fait certain, c'est que la nuit du 4 août, le système des privilèges tombe. C'est-à-dire que les privilèges de droit, ils ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais il y a un processus qui va les faire disparaître. Le procès verbal de la nuit du 4 août commence par... Le régime féodal est détruit.
Ouais, c'est pas rien.
C'est pas rien.
Structurellement, ça y est.
Voilà, structurellement, ça y est. Après, bon, ça va mettre quelques années dans la Révolution à se mettre en place. Et puis ensuite, on sait que les privilèges, ça mute, ça revient, ils reviennent toujours. Et aujourd'hui, en fait, on a d'autres privilèges qui sont non pas des privilèges de droit, mais des privilèges de fait. Il y a plein d'études contemporaines qui montrent que il n'y a jamais eu autant de reproduction sociale en France depuis des décennies, qu'on est de plus en plus une société d'héritiers. Donc ce sont les nouvelles formes des privilèges. Et puis il y a aussi d'autres privilèges qui deviennent de plus en plus insupportables aujourd'hui, alors qu'à l'époque on n'en parlait même pas. On parle de privilèges masculins, de privilèges blancs, etc. Ils prennent toujours de nouvelles formes.
Alors est-ce qu'on peut considérer que la Révolution française est la matrice d'autres grandes révolutions, révolution bolivarienne, révolution soviétique? Il y avait une Marseillaise des travailleurs en Union soviétique, figurez-vous. Alors c'était pas l'hymne, mais il y avait une Marseillaise des travailleurs. N'empêche que dans Marseillaise des travailleurs, il y a Marseillaise.
Oui, tout à fait. Alors ça, je ne savais pas, mais ça m'étonne pas tant que ça. En fait, dès mai 89, toute l'Europe regarde ce qui se passe à Paris, enfin à Versailles plutôt. Ouais. Vous avez les nobles, les princes qui regardent avec pas mal d'appréhension. Et puis, tous les bourgeois de l'Europe entière regardent avec espoir. Et j'ai trouvé des lettres d'un professeur allemand qui fait le trajet à pied avec deux étudiants depuis Berlin parce que, en fin juin 89, parce qu'il veut voir ce qui se passe. Alors, il apprend la prise de la Bastille en chemin. Et il arrive à Paris le 3 août, je crois. Et là, donc, on a ces témoignages le 5 août au matin, il entend la rumeur, il dit, mais il vient de se passer quelque chose de dingue, mince, je l'ai loupé.
Parce que le tiers-état, qui est composite, justement, tout sauf unique, il va des plus pauvres jusqu'à ceux qui vivent bien, qu'on appelle les bourgeois, c'est-à-dire les intellectuels, les avocats, les journalistes, c'est eux qui vont faire la révolution.
Tout à fait. En fait, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez prononcé le mot quatrième ordre, il y avait des gens qui proposaient de changer les règles des états généraux et de créer un quatrième ordre.
De Carmonde, quoi, avant l'heure.
Exactement. Et en fait, les députés du tiers-État aux États généraux sont, pour un tiers, je crois, des avocats. Enfin, c'est essentiellement des bourgeois. Il y a quelques paysans, mais pas beaucoup. Donc en fait, ils ne représentent pas vraiment le peuple. Ils représentent vraiment la frange bourgeoise du peuple. Mais c'est la frange qui est appelée à devenir dominante par la suite. Mmh. Et c'est celle qui va tout renverser.
Mais ils représentent leurs propres intérêts, mais qui se confondent avec ceux du peuple. C'est là où la révolution est vertueuse.
Oui, alors qu'ils ne se confondent pas
parfois,
forcément.
Ça se rencontre quand même.
Mais, ah oui, il y a des collusions. Et puis, vous l'avez souligné aussi un moment, il y a quand même un esprit patriotique qui se dégage. Mmh. C'est très confus tout ce qui se passe pendant 3 mois de mai à août, et après aussi, mais il y a quand même cette communauté là, dans cette Assemblée nationale, même avec on voit d'ailleurs le 4 août, vous avez des nobles radicaux, des nobles libéraux qui s'allient à des bourgeois radicaux. Donc voilà, il y a cet esprit patriotique qui naît là.
Et qui naît devant la menace extérieure.
Pas seulement.
Qui va se confirmer après. Hein.
Tout à fait.
Mais pas seulement, pourquoi?
Non, il est... d'une part, on sait que, j'avais lu une étude qui montrait que, en gros, qui étudiait le 4 août sous le prisme de l'effondrement. Mm-hmm. Il disait le 4 août, c'est un effondrement.
C'est le système féodal.
Voilà, c'est tout le système féodal, c'est qui s'effondre. En gros, ce soir-là, le mot ancien régime entre dans le vocabulaire.
Ouais.
En gros, on sort du déni. On savait que ça pouvait pas tenir longtemps, et on s'est dit, ok, on casse tout. Ensuite, il faut recréer. Et comme il faut recréer dans l'urgence, on n'a même pas le temps de chercher à défendre ses petits intérêts particuliers. Des gens vont le faire, c'est naturel, mais pendant quelques semaines, quelques mois, les semaines qui vont mener à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y a quand même vraiment le sentiment chez tous les députés de la nouvelle Assemblée constituante de devoir créer quelque chose de nouveau. Donc quelque chose qui les dépasse.
Ouais,
et c'est assez fort.
C'est l'année zéro.
Oui, tout à fait.
Parlons du clergé maintenant.
Oui.
Parce que lui aussi, il est composite, le clergé. D'ailleurs, on a eu après des prêtres réfractaires et des prêtres jureurs. Mais dès le début, on voit que la frange la plus modeste du clergé, ce sont les curés qui sont proches, en fait, des paysans et des pauvres.
Tout à fait. Et c'est eux qui vont faire basculer le début de la Révolution en rejoignant, quand le tiers-État se décrète à son national, c'est un coup de force, c'est presque un coup d'État. Mais ça marche parce que les curés les rejoignent. Et après, ils forcent la main aux évêques, et puis les nobles vont devoir les rejoindre. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que, comment dire, le clergé a beaucoup d'argent. L'argent magique, à l'époque, il existe, et c'est l'argent du clergé. Donc, c'est ce qui va devenir ensuite les biens nationaux, etc. Mais ça, c'est une clé essentielle pour comprendre le début de la Révolution.
C'est-à-dire?
Le 4 août, les dîmes... La dîme, qui était un impôt, est déclarée rachetable.
D'accord.
Quelques jours après, c'est un peu compliqué, mais il y a vraiment un...
Non, allez-y, c'est intéressant.
Il y a un petit coup, il y a vraiment un coup parlementaire. Et 3 jours après, quand on fait les décrets d'application du 4 août, on dit, on avait bien dit que les dîmes étaient abolies. Et là, les évêques et le curé disent, pas du tout, on a dit rachetable. Et là, on dit, si, on avait dit. Et voilà, il y a un truc, il y a un coup de jarnac à l'Assemblée pour faire, avec quelques curés qui étaient complices, pour faire accepter la fin de la dîme. Et finalement, par un billard en trois bandes, l'Assemblée nationale va mettre la main sur l'argent de l'Église.
Bien, merci infiniment Bertrand Guillot, c'était passionnant.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur du livre, notamment « L'abolition des privilèges », livre paru aux éditions Les Avrils en 2022. Merci, au revoir.
Merci à vous.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, la nuit de l'abolition des privilèges, une émission que vous pouvez retrouver, réécouter en podcast bien sûr, à la technique. Aujourd'hui, il y avait Thilaï Ravu.
Vous êtes sur France Inter.